Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Nous vous convions aujourd'hui, ce mardi, au Café Libre pour débattre autour de l'actualité du logiciel libre et des libertés informatiques. C'est le sujet principal de l'émission du jour. Également au programme, après la répète du 29 mars 2024, la JDLE rejouée, une nouvelle chronique des Costi père et fille. Et enfin, l'insécurité informatique par l'incroyable Luc. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libreavoue.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 30 avril, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, Julie Chomard. Salut Julie.
Bonjour, bonjour Étienne.
Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
À cœur vaillant, la voix est libre de Laurent et Laurette Costi. Comprendre Internet et ses techniques pour mieux l'utiliser, en particulier avec des logiciels libres et des services respectueux des utilisatrices et utilisateurs, pour son propre bien-être en particulier et celui de la société en général. Laurent Costi est administrateur de l'April et fait cette chronique avec sa fille Laurette. Au programme aujourd'hui, après la répète du 29 mars 2024, la JDLE rejouée.
Laurette, ma bibiche, on est dans la sauce gribiche. Il faut rendre une chronique très vite, sinon ça va faire un trou dans la prochaine émission, mais surtout, je risque de perdre toutes les actions capitalistiques que j'ai investies dans l'April. C'est la punition quand on ne fait pas ce à quoi on s'est engagé.
Mais juste par pure curiosité, t'en as combien des actions de l'April sans indiscrétion ?
Bah 42, c'est le plafond autorisé. À raison de 30 centimes l'action, ça nous fait quand même pratiquement le prix d'un carnet de timbres, en lettres vertes.
Ah oui, oula, bah oui, ce serait vraiment dommage de perdre un tel patrimoine. Non, on va trouver une solution.
Oh ouais, ce serait bien. On pourrait parler de choses et d'autres, comme la cucurbitacine et le concombre d'âne, même si ça n'a pas grand-chose à voir avec le logiciel libre. Bon, de toute façon, à part ton pote Alexis, y a pas grand monde qui nous écoute.
Pas facile de savoir, mais ah, tu sais, on l'a déjà fait, parler d'un truc super intéressant, mais pas du tout en lien avec le logiciel libre. Tu sais, ça va finir par se voir, hein.
T'as raison. Alors, comme dirait Bohort dans Kaamelott, je suis un misérable. Et je m'apprête donc à rendre mon carnet de timbres.
Non mais attends, on pourrait pas tout simplement, avec notre expertise désormais incontestable, repomper la chronique des journées du logiciel libre éducatif et faire semblant qu'elle est en direct, genre ?
Oh mais c'est une excellente idée que je t'ai soufflé là. En plus, ce serait 1. Rendre hommage à cette chouette journée qui montre la belle effervescence autour des communs numériques dans l'éducation, et de 2. Rajouter artificiellement quelques applaudissements supplémentaires à ceux déjà bien nourris que nous avons eus le jour J. Allez go, c'est parti. Fermez les yeux, imaginez un amphi à Créteil, plein à craquer d'enseignants et d'enseignantes survoltés, je dirais comme ça a vu de nez 40 000 à 50 000 spécimens, venus des quatre coins de la France pour communier, dans une ferveur pittoresque, autour des communs numériques et du logiciel libre.
Allez, c'est parti, et vous pouvez également jouer chez vous. Bonjour à toutes et à tous, fermez vos cahiers et vos ordinateurs. Prenez une feuille et un crayon. Vous savez encore ce que c'est normalement. Pour celles et ceux qui ont caché leur téléphone portable dans leur trousse, sachez que mon papa ici présent a fait acheter à l'organisation un appareil sur jebrouilleécoute.com et que, par conséquent, le Wi-Fi, la 5G, la 4G et inférieur ne vont pas être accessibles dans les 8 minutes à venir.
Boudiou, déjà une contrepétrie dans ton propos liminaire d'accueil. On ne respecte plus rien. Bon, je profite que j'ai la parole pour préciser à l'intention des profs de physique dans la salle que le 9,81G reste actif. C'est beaucoup plus compliqué à brouiller. Et c'est aussi, surtout, pour montrer que j'écoutais attentivement leurs cours quand j'étais jeune.
On utilisait le terme « failloté » à ton époque pour qualifier ce que tu viens de faire, je crois.
Alors, je vois pas de quoi tu parles. Et sinon, on dit comment maintenant ?
Alors bah, on dit simplement, celui ou celle qui a force de zèle cherche à se faire bien voir de ses supérieurs. Mais ne nous éparpillons pas. Je donne le sujet, écoutez attentivement. Valérie Peugeot distingue trois postures de la puissance publique vis-à-vis des communs. D'abord, il vous est demandé de rappeler ces trois postures, question sur 5 points. Ensuite, après avoir rappelé pourquoi la troisième posture, dite posture de coopération, est bien plus intelligente que les deux autres postures, vous détaillerez ses bienfaits pour l'éducation nationale en particulier et pour notre société en général.
Excellent sujet, je converge. La posture de confrontation et la posture d'indifférence, c'est quand même tout pourri. Et d'ailleurs, à propos de la posture d'indifférence, alors je ne suis pas tout à fait sûr qu'il parlait de la puissance publique vis-à-vis des communs, mais bon, Anton Tchekhov ne disait-il pas justement « L'indifférence est une paralysie de l'âme, une mort prématurée ».
Oui, et la confrontation est l'arme des faibles, disait aussi un grand penseur russe dont j'ai oublié le nom. Bref, on vous laisse composer pendant qu'on finit cette chronique et Alexis Kaufmann passera dans les rangs dans 5 minutes pour ramasser les copies. Vous êtes priés donc d'écouter et de composer en même temps, bien évidemment. D'un autre côté, en tant que prof, vous êtes habitué à devoir en faire toujours plus et mettre en application des réformes dont l'encre n'est pas encore sèche, mais que c'est pas grave puisqu'on passe à la suivante.
Alors, si on était complotiste, on pourrait penser que des personnes voudraient démantibuler le truc juste pour avoir le plaisir de dire après « Si l'éducation nationale devenait privée, c'est sûr, ce serait beaucoup plus efficace. »
Mais on n'est pas complotiste.
Bon, et comme disait Robert Orben, si vous trouvez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance.
Excuse-moi papa, je te coupe, j'ai un appel, tu sais, c'est mon boss qui a décidé d'engager une démarche de migration vers le logiciel libre dans la SOLA. Oui, oui Nicolas. Ouais c'est ça, 4 libertés pour définir le logiciel libre. Non, pas la gratuité en effet. Et 3 piliers pour les communs numériques, ouais, la ressource, la communauté, oui la gouvernance également. C'est ça, allez je dois te laisser, je suis de surveillance.
Laurette, je t'avais dit de couper ton portable. Les gens dans la salle vont se rendre compte que le brouilleur ne fonctionne pas.
Et toi, t'as pas coupé ton micro.
Sans transition, une page de réclame. Vent calculatrice HP 28S, polonaise inverse, très peu servie. Contactez le ministère de l'Éducation nationale qui fera suivre.
Attention, bip bip bip, il vous reste 3 minutes, on se dépêche, on doit aussi finir le programme, je vous rappelle. Et quelque part, vous avez de la chance d'ailleurs, ce programme a été écrit pour vous uniquement. Vous êtes les premiers à en bénéficier. Et vous serez les derniers, puisqu'il y en aura un nouveau l'année prochaine. Bref, une exclusivité rien que pour vous.
Alors on l'a déjà dit, Laurette, que les programmes étaient trop souvent renouvelés. Lourdeur, lourdeur, non féminin, impression de pesanteur pénible, et aussi manque de finesse, de vivacité, de délicatesse, lourdeur d'esprit. Ah bah ouais, t'es lourde. Et en plus, si ça se trouve, il y a des inspecteurs et inspectrices hors classe dans la salle. Jamais je ne trouverai un boulot dans l'éducation nationale, moi.
Ouais, mais de toute façon, on avait dit qu'on n'avait pas le droit de se venger d'une chronique à l'autre, c'est pas juste.
Alors je me souviens pas. Mais ok, on commence maintenant. Et c'est comme quand on joue à tic-tic dans la cour, on n'a pas le droit de retoucher son père.
Bon, sérieusement, comment on fait pour que toutes les belles initiatives que l'on a pu voir ce matin volent au vent et sèment et fertilisent toujours plus le monde de l'éducation face à des machines sans âme qui ont des budgets en marketing et en lobbying plus importants que le PIB de certains pays?
Alors la question est belle. La réponse, pas facile. Déjà, venir aux journées du logiciel libre éducatif, ça permet de se rendre compte que l'on n'est pas seul à se battre dans son établissement et que le nombre grandit.
Et peut-être aussi faut-il éviter le logiciel libre punitif et anticiper un peu.
Ah, je vois à quoi tu fais allusion. Ce lycée de ma connaissance qui, recevant sa facture de fluide, largement explosée par rapport à l'année précédente, a, entre autres, décidé d'arrêter du jour au lendemain les licences Office 365. Résultat, les enseignants et enseignantes qui avaient préparé leurs cours avec cet outil de masse, 1. Devaient retravailler la forme, 2. Ont vécu le basculement vers LibreOffice comme une punition.
Alors que, fondamentalement, c'est une émancipation. Multiplier les espaces et les lieux où des personnes comme celles ici présentes ou issues de structures associatives travaillant ces questions pourraient aider à expliquer pourquoi c'est important de migrer et d'anticiper. Ceci pour éviter de se retrouver au pied du mur qui tombe sur la tête.
À 20 ans, tu as déjà la mûritude d'une personne bien plus âgée et d'une grande sagesse. Comme on est un peu à la bourre dans l'écriture, j'emploie la technique du copier-coller d'une chronique précédente, et en l'occurrence la chronique 21, intitulée fort justement « Coupe-frites, rétro-ingénierie et transition associative ». Donc je m'autocite, et en plus, c'est en CC BY SA, je ne suis pas obligé de me demander l'autorisation. Boudiou ou dire que j'ai mis 20 ans pour arriver à cette conclusion.
C'est ça, le partage est aussi une voie qu'il faut continuer à développer et promouvoir. C'est juste extraordinaire de voir tous ces endroits où les enseignants et enseignantes partagent leur contenu.
Pour ne prendre qu'un exemple, Césamat est emblématique d'un partage cohérent avec l'esprit initial de l'éducation nationale, de partage de connaissances et d'émancipation.
Je crois qu'il va falloir qu'on s'arrête là, hélas. Dommage, on avait vraiment plein d'idées pour continuer à promouvoir le libre dans l'éducation nationale et appuyer toutes celles et ceux qui œuvrent déjà chaque jour pour ça.
Ah oui, c'est vraiment dommage ce manque de temps, alors qu'on avait des solutions clés en main pour résoudre tous les problèmes, exactement comme les gourous de la Silicon Valley, dommage.
Bip bip bip, levez vos stylos au-dessus de la tête, c'est terminé, on arrête d'écrire. Alexis, on fait comme on a dit, tu arraches les copies des mains. Bon, mais vous inquiétez pas trop pour les notes, à part ça, après harmonisation bienveillante à l'échelle de l'équipe pédagogique, puis de l'établissement, puis enfin de l'académie, vous devriez avoir tous 19 plus ou moins 1.
Alors sur ce, Laurette va vous donner donc le mot de la fin.
Le mot de la fin, c'est que l'évaluation sommative individuelle, c'est bien. Mais l'évaluation formative collective, c'est mieux. Ici comme ailleurs, l'important c'est de participer, de préférence sous licence libre. Bon goûter à toutes et à tous, faites-vous des tartines d'Egbalium, et surtout, merci de témoigner pour votre engagement quotidien et votre présence à cet événement qu'un autre numérique dans l'éducation est possible.
Ah oui, bravo, bravo, c'était « À cœur vaillant, la voix est libre » de Laurent et Laurette Costi, dans laquelle Laurent reproduit une chronique donnée dans le cadre donc, de la journée du logiciel libre éducatif du 29 mars, chronique dans laquelle il avait déjà copié-collé un morceau d'une autre chronique précédente, une très belle mise en œuvre de la liberté de réutilisation. Nous allons à présent faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous vous invitons à nous retrouver au Café Libre pour parler des actualités du logiciel libre et des libertés informatiques. Avant cela, nous allons écouter Les Bretons de l'Est par Les Bretons de l'Est. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Nous venons d'écouter Les Bretons de l'Est par Les Bretons de l'Est, disponible sous licence Art Libre, une nouvelle preuve qu'il y a plein de super morceaux de musique sous licence libre.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Passons maintenant à notre sujet principal. Nous vous souhaitons la bienvenue au Café Libre où on vient papoter sur l'actualité du logiciel libre dans un moment convivial. Un temps de débat avec notre équipe de libristes de choc issus d'une rigoureuse sélection pour discuter avec elle et eux et débattre des sujets d'actualité autour du libre et des libertés informatiques. Aujourd'hui avec moi, autour de la table, Isabelle Carrère, membre d'Antanac, pour qui elle fait notamment des chroniques régulièrement dans Libre à vous.
Bonjour.
Florence Chabanois, responsable ingénierie, fondatrice de la place des Grenouilles et membre corps de TechRocks.
Bonjour tout le monde.
Et enfin Pierre Bessac, informaticien, libriste de longue date et fondateur d'Eriomen.net.
Bonjour tout le monde.
N'hésitez pas à participer à notre conversation au 09 72 51 55 46 ou sur le Saint-Lô web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Je précise également que, comme nous en avons pris l'habitude, vous pouvez aussi nous retrouver au Café Libre sur Peertube, l'émission étant exceptionnellement diffusée en vidéo, en direct. Je précise qu'Isabelle préfère ne pas apparaître sur la vidéo, donc vous l'entendrez, mais vous ne la verrez pas. Merci à mon collègue Fred d'assurer cette diffusion depuis le studio de la régie. Alors, pour commencer, je vous propose de démarrer par une nouvelle que je trouve assez réjouissante. L'État allemand du Schleswig, ou ça commence bien, du Schleswig-Holstein, excusez-moi pour les germanophones, donc cet État, ce land allemand du nord de l'Allemagne, va abandonner Windows et Microsoft Office. Les 30 000 employés vont progressivement travailler sur un environnement purement logiciel libre, un land allemand qui couvre quand même une population de 3 millions d'habitants, donc voilà, pour donner un peu l'échelle, qui se situe donc dans le nord de l'Allemagne. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle? Qui veut se lancer?
Alors, moi, je veux bien
par dire
deux, trois choses, même si je ne suis peut-être pas la mieux placée, mais je trouve ça intéressant parce que ça n'est qu'un premier pas qui est fait là, et qu'il y a d'autres pas qui vont se continuer, si j'ai bien compris, et notamment jusqu'en 2026. Et ça va commencer par la libération du traitement de texte et de tout ce qui est bureautique. Ça commence simplement, ce qui est déjà bien, par LibreOffice. Bon, c'est super. Ce que je trouve très intéressant, c'est de regarder, parce que le sujet lui-même, il est bien. On ne peut que se réjouir de voir des gens qui passent au libre, évidemment, où que ça soit dans le monde. Et d'ailleurs, je rappelle qu'à cette occasion, il y avait eu d'autres éléments. J'ai trouvé des petits articles aussi qui ont peut-être fait moins de bruit que l'Allemagne. J'ai trouvé ça rigolo parce qu'en fait, il y a eu en Turquie précédemment, il y a eu la même chose. Il y a eu un morceau de la Turquie, une institution qui a fait la même opération et on n'en a pas. Voilà, c'était la municipalité turque de, je ne vais pas le prononcer bien non plus, mais Eyüp Sultan, qui est passé également au libre. Et alors, je trouve ça très intéressant que ça soit qu'on fasse un grand bruit, parce que j'ai cité celui-là et je pense qu'il doit y en avoir d'autres ailleurs dans le monde que la petite ville turque. Je trouve ça intéressant qu'on fasse un grand barouf pour l'Allemagne qui tente, tadada. Bon, bref, c'est drôle. En tout cas, on espère qu'ils ne vont pas lâcher ce que disent beaucoup les médias. Moi, j'ai vu, je ne sais pas si vous avez regardé un peu plusieurs articles là-dessus, mais ce que j'ai vu dans les médias différents qui en parlent, c'est qu'il y a d'une part, on cite évidemment la question de la gratuité comme étant le sujet central de pourquoi ce choix est fait, ce qui est quand même un peu dommage que ça soit présenté comme ça. Je ne dis pas que c'est ça qui est voulu par les Allemands, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est présenté. Et l'autre grand axe qui est présenté, c'est aussi la question de qui n'est pas très, très bien présentée, je trouve. C'est le pourquoi commencer par cet outil-là de la bureautique et comment la suite va se faire. C'est hyper discret. J'ai trouvé que dans un ou deux articles, le fait qu'il y avait un choix sur quelle distribution, quel OS, GNU Linux allait être pris, etc. Je trouve ça intéressant comme biais.
Oui, tu l'as dit, donc il y aura ce qui est prévu, c'est 5 étapes de ce que j'ai pu lire. Et effectivement, de commencer, c'est souvent le cas, j'ai l'impression, enfin, dans les migrations réussies, c'est de commencer étape par étape, pas essayer de faire tout d'un coup. Mais ce qui est intéressant, tu l'as dit, c'est que dans ces étapes, il y a aussi le système d'exploitation pour avoir vraiment un vrai poste de travail libre. Et ça, c'est une ambition qui passe toujours là. Souvent, on s'arrête voilà, peut-être à des logiciels métiers, à des logiciels de bureautique, ce qui est déjà très bien, mais vraiment penser l'intégralité du poste de travail, c'est une ambition qui est quand même aussi à souligner, qui est intéressante. Pierre.
Ouais, l'expérience est super intéressante parce qu'il y a eu des précédents, il y a peut-être 10-15 ans, en Bavière notamment, à Munich, où il y a eu un retour en arrière, en fait. Il y a eu un déploiement de logiciels libres qui a dû être annulé, en fait.
Munich, c'était plus que... Pardon, je juste pour donner ce contexte. Oui. Munich, c'était plus qu'une parenthèse, que c'est en 2003-2004, ils ont fait une migration vers le logiciel libre, qui était plutôt salué comme étant une vraie réussite, et qui a duré une quinzaine d'années, enfin jusqu'en 2017, donc c'est un peu moins de 15 ans. Donc c'était vraiment... Il y a eu un retour en arrière à ce moment-là. Donc c'est pas seulement un échec, c'est qu'il y a eu un retour en arrière à l'occasion de changement de majorité.
Oui, tout à fait, oui, j'avais... Effectivement. Voilà, il y a eu des choses qui n'étaient pas toujours... qui n'ont pas toujours avancé dans le bon sens, on va dire, voilà. Cette expérience montre que, enfin, il y a quand même une évolution en maturité des offres libres qui permet quand même d'arriver à des choses. Je sais que moi, je me suis mis à la bureautique sur le tard parce que ça me cassait les pieds d'utiliser du Windows. Hein. Mais maintenant, il y a des outils bureautiques tout à fait corrects en libre depuis des années maintenant. Et donc, c'est une preuve qu'il faut un petit peu laisser mûrir le libre pour arriver à des offres tout à fait pertinentes, en fait. Et après, il y a aussi le côté plaque de spaghetti d'un environnement tel que Windows, où, comme tu le disais, il peut y avoir des logiciels métiers qui tournent que sous Windows, donc c'est pas forcément facile d'en sortir, de sortir d'un écosystème une fois qu'on y est complètement dedans. Donc ça peut être pas mal de commencer par remplacer les outils de bureautique et puis voir au fur et à mesure ce qu'on peut remplacer ou pas, mais c'est plutôt positif. Et ça pose aussi la question de la souveraineté. J'avais vu un des articles, je crois que c'était des Euregister, une pièce d'opinion, enfin une chronique dans Euregister, qui est un journal britannique en ligne consacré aux technologies de l'information et au libre, et qui expliquait que aujourd'hui, avec les nouvelles législations américaines type FISA qui oblige les sociétés américaines, mais pas juste maintenant les hébergeurs, ça peut être aussi les éditeurs de logiciels, les gestionnaires de centres de données, à collaborer avec les renseignements américains. On ne sait pas exactement à quelle source on va être mangé en termes de renseignements américains, et on n'a aucune parade législative possible en Europe, puisque ce sont des lois qui, par définition, sont des lois américaines extraterritoriales et où on demande à des... On peut demander, enfin, l'État américain peut demander à des prestataires, des sociétés américaines, de violer la loi européenne. Donc, la protection législative européenne n'est pas suffisante. Et donc, il faut, ça met en valeur l'utilité du logiciel libre pour se protéger d'ingérences potentielles. Alors, les Américains sont peut-être pas, ils ciblent peut-être pas particulièrement l'Europe, c'est peut-être d'autres régions qui ciblent, mais voilà, si on veut être vraiment sûr de, il y a quand même des problèmes d'intelligence économique qui peuvent se poser derrière. Donc voilà, ça pose tout un tas de questions autour de l'adoption du libre sur la durée, en fait.
Tout à fait, et visiblement, et peut-être que c'est une nouveauté relative, c'est cette place de la question de la protection des données personnelles qui était peut-être moins présente et qui l'est notamment par l'application extraterritoriale du droit américain, qui est du coup une des motivations de ce que j'ai compris de ce land allemand. Florence, quelle est ta lecture de cet événement? Après, on pourra rentrer peut-être plus en détail sur les points que vous souhaitez, mais...
Ah bah en effet, beaucoup de choses ont été dites. Oui. Moi, j'ai aussi vu la partie souveraineté numérique. Le côté, nos administrés nous font confiance et du coup, on a une responsabilité de protection et de sécurité de ces données-là. Et ça, c'est quelque chose qui est relativement récent, pour le coup, dans les choix de migration, alors que la gratuité arrivait beaucoup plus souvent. Alors, en lisant cet article, personnellement, j'étais quand même un peu surprise parce que je me disais, LibreOffice, c'est facile, non, comme migration. Et en plus, je suis étonnée qu'il y ait un article parce qu'il me semble qu'il y a des écoles. Enfin, ça me semblait quand même assez courant comme type de migration. Et après, j'ai compris effectivement que le fait de migrer aussi des OS, ça, par contre, c'est plus rare que ce soit global. Et surtout qu'on fasse un bilan, qu'on se dise, on va pas juste faire la migration sans se dire au bout d'un moment qu'est-ce que ça a apporté ou détruit par rapport au fait que tout changement est douloureux et que du coup l'interopérabilité par rapport au reste du monde va énormément peser, je pense, dans le sentiment de réussite ou pas. Et du coup, j'espère qu'il y aura d'autres landes qui vont les rejoindre parce que même si ça a été posé comme des critères de base, l'interopérabilité, si on apparaît juste comme des gens qui font différents des autres, c'est vrai que c'est un peu compliqué sur la durée, quoi.
C'est vrai que l'existence de formats libres, comme les formats de LibreOffice, et puis la possibilité de relire aussi les formats des suites Windows, aide beaucoup à ce genre de migration, parce que ça n'a pas toujours été aussi facile qu'aujourd'hui.
Ce que mettait, pour rebondir sur ce que tu disais, mettait en avant l'article du Register que tu as mentionné, et on voit que c'est vraiment pas seulement des questions techniques en réalité, qu'il y a des vrais enjeux géopolitiques derrière, de rapports de force politique, et que Microsoft, en l'occurrence, mais ce n'est pas le seul, quand on parle des géants du numérique, pour reprendre ce vocable, ont un poids politique énorme. Et on voit qu'il y a tout un enjeu, et c'est ce que disait cet article du Register, qu'il y a là, sur ce cas-là, ça ne se joue pas qu'au niveau de ce land, mais Microsoft a peur de cet effet boule de neige qui fait que finalement, une région va se libérer, va en entraîner d'autres, et donc il y a des très forts efforts de lobbying, et c'est pour ça, par exemple, en France aussi, il y a une Nancy qui était un exemple de municipalité, de collectivité qui avait fait du libre, changement de majorité, et puis voilà, c'est aussi de la fragilité de ces choses-là, donc l'importance de bien les ancrer, de les penser dans le temps, donc on espère que ce land allemand va bénéficier des erreurs, entre guillemets, du moins des échecs relatifs du passé pour toujours mieux réfléchir et mieux avancer. En tout cas, voilà, il y a un enjeu important. Vas-y, Isabelle.
C'est juste un truc à rajouter quand même. Moi, ça m'étonne beaucoup. Effectivement, quand j'ai lu, j'ai eu la même réflexion que Florence. Je me suis dit, LibreOffice, ça va, c'est bon. Moi, il y a 30 ans, je faisais des formations sur LibreOffice au ministère de l'Environnement en France, quoi. Je veux dire, c'est quand même pas le grand... le grand choc. En plus, LibreOffice, c'est quand même une communauté qui a fait les choses super bien, c'est-à-dire qu'elle les a faites pour que ça ressemble. Je défie quiconque, là, maintenant, d'aller me trouver des trucs qui marcheraient dans les documents .doc de Word versus les documents de LibreOffice Writer. Enfin, voilà, donc il y a vraiment des gros efforts qui ont été faits là-dessus. Il y a des gros efforts parce que LibreOffice fonctionne sur des plateformes Linux, mais aussi sous Windows, et ils ont même fait des versions pour Mac. Je veux dire, ils ont vraiment travaillé là-dessus, sur ce champ-là. Donc là, maintenant, encore en 2024, on dit « Oh, waouh, faisons un accompagnement du changement pour aller sur LibreOffice », ça me fait trop marrer, quoi. C'est vraiment pas sérieux. Qu'on fasse travailler les informaticiens, informaticiennes, sur des choses, un peu plus sérieuses, entre guillemets. C'est-à-dire, oui, la sécurité, les données, les plateformes, les annuaires, enfin, tous ces machins-là dans des entreprises, ou là, dans un État, ou dans une municipalité, etc., dont acte. Mais LibreOffice, ça va, quoi.
Mais est-ce qu'on n'a pas un biais, là, de personnes aussi qui ont des compétences informatiques, qui ont une vision? C'est facile, mais en même temps, il y a les usages. On sait comment les usages peuvent être très ancrés. Il peut y avoir des résistances, ne serait-ce que... Alors, je suis d'accord que c'est pas le plus difficile, mais en fait, j'en sais rien. Pour moi, c'est une évidence. Mais quand il y a des services entiers qui ont l'habitude avec le chef ou la chef qui est là, qui utilise Microsoft et qui a pas conscience qu'il y a des enjeux derrière, est-ce que c'est pas quand même un premier cran à enclencher qui est quand même pas si anodin que ça, et qui, au contraire, justement, parce qu'il peut être plus facile, parce que les formations sont accessibles, qu'il y a plein de compétences qui existent autour.
Je pense que tout seul, ça joue pas tellement, mais après, ce changement, il est fragile, en effet. S'il est tout seul, je pense que là où il y a quand même un tournant, c'est le fait que ce soit tout un écosystème. Et aujourd'hui, avec LibreOffice, il y a SharePoint aussi qui va migrer dans le cadre de ce land-là. Et du coup, c'est dans tous les usages qu'on a en entreprise ou dans une administration, à quel point tout va bien se communiquer facilement. Dans le sens, je peux sauvegarder facilement, je peux l'échanger facilement. Et je pense que c'est là où peut-être il y a une nuance où le fait de dire, ah non, moi je suis sur Google, toi t'es sur Microsoft, et du coup avec les partenaires de galérer un peu parce qu'on parle pas la même langue, ça peut être un frein. Mais c'est vrai que j'espère qu'on ira plus loin que LibreOffice.
Voilà, oui, comme première étape, mais pas comme étape exclusive.
Absolument.
Oui.
Il y a quand même une forte présence dans les esprits encore de Microsoft, parce que il y a encore des gens qui parlent, enfin, il y a encore beaucoup de gens, même la plupart des gens parlent de feuilles Excel, ils parlent pas de feuilles de tableur ou documents Word, et donc, je me rends pas bien compte, effectivement, par rapport à ce que dit Florence, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont collés à Word ou à Excel au point de pas pouvoir changer d'outil? Excel, il y a des fonctions assez particulières dedans. Word, je ne connais pas. Donc ça peut être un frein au changement. Après, c'est vrai que pour 95% des usages, on n'a pas besoin d'avoir des trucs très...
Ouais, mais ce que je veux dire, surtout...
LibreOffice peut remplacer sans souci pour pratiquement tout le monde.
C'est quand même cette habitude-là, c'est un truc de consultant, hein, l'accompagnement du changement. Hein, c'est pas une chose dont on a besoin obligatoirement tout le temps.
Ça donne du service avant.
Ça fait du service avant, pendant, après. Enfin bref, vous savez très bien. Il y a ça. Et puis il y a surtout que du coup, ça permet de ne pas parler des vrais sujets. Par exemple, comme tu le dis, les espaces collaboratifs, ou pouvoir partager des documents, pouvoir avoir une plateforme libre. Enfin, ça serait des vrais sujets sur lesquels on pourrait mettre en avant les choses, quoi, plutôt que juste un tableur, un traitement de texte et puis un diaporama. Oui, c'est vrai que les gens ils disent « Ouais, tu vas me faire un PowerPoint » au lieu de dire « Tu vas faire un diaporama ». Oui, c'est vrai. Bon, je le vois tous les jours, moi, en Tanac, tous les jours, des gens qui disent « Mais est-ce que je vais avoir Word et Excel sur l'ordinateur que vous me donnez ?» Oui, bon, ok, mais ça va, quoi. Ça va. Je veux dire, c'est... Non, c'est au niveau...
Tu les calmes un peu, quoi. Voilà, ouais,
non, mais ce que je veux dire, c'est que des individus, des particuliers viennent, et des gens qui sont éloignés d'eux, pour qui ça va être le premier ordinateur, que eux réagissent comme ça, je peux comprendre. Qu'après, que des gens sur... des informaticiens, des informaticiennes, ce que je ne suis pas, pour un État allemand, ou peu importe d'où il est, le présente comme ça, c'est pas sérieux. Mmh. Voilà. Je veux dire, est-ce qu'on peut pas aller plutôt sur le fond de c'est quoi d'utiliser des logiciels libres, c'est quoi d'avoir des systèmes d'exploitation libres, quelles sont les valeurs qu'on veut mettre en avant là ou pas, où est-ce qu'on va? Si ça n'est que de la question économique, d'accord, ou que de la question pour cette souveraineté numérique qui certes est importante, mais qui pour moi n'est pas suffisante, parce que cette souveraineté numérique, elle est juste la façade de ce dont il est question derrière en termes capitalistes, quoi. Donc voilà, qu'est-ce qu'on veut?
Vas-y, Florence.
Ça me soulève une autre question par rapport à ce que tu dis. Parce que pour moi, aujourd'hui, Microsoft, c'est quand même en perte de vitesse, même sur les outils bureautiques, au profit de la suite Google. Donc en effet, on ne dit pas... Moi, je dis encore Excel. Alors que c'est des spreadsheets. Bon, je m'embrouille, après je dis tableur, voilà. Mais on n'a pas ces sujets-là pour une migration de Microsoft vers Google. On ne parle pas de transition alors que les outils sont complètement différents. Et c'est parce qu'on parle de libre que là, on en fait... en tout cas, on a une perception ou une... Il y a des a priori à négatif où c'est quelque chose qu'il va falloir accompagner, que ce sera douloureux, alors que bah, c'est complètement différent sur Google par rapport à Microsoft, et que là, comme on parle de entre GAFAM, pas de problème, quoi. Là, ce sera instinctif.
C'est ça. Ce sont des imaginaires, et je pense qu'on revient souvent, c'est une bataille culturelle, surimposer, enfin sortir plutôt de ce qui nous est imposé comme étant des normes informatiques, celle de Microsoft ou de Google, pour ne citer que. Il y avait une citation, alors je pense qu'elle est attribuée plus, mais dans un des articles qui dit, alors donc je cite cet article, « Le Land n'a pas non plus caché le fait que les budgets publics, et donc l'argent des contribuables, mais on y revient, seraient mieux investis dans de véritables services de programmation de l'économie numérique nationale plutôt que dans le paiement de droits de licence. » Et je trouve que c'est toujours intéressant aussi de voir, finalement, quand on loue, ça que ça distingue, c'est-à-dire qu'on loue un service finalement qu'on ne maîtrise pas du tout, hein, une location par licence, ou alors on investit et quand même on devient aussi propriétaire, et pas tout seul, puisque c'est ce qui investit au niveau de ce land-là, en fait, peut bénéficier à n'importe qui d'autre, puisque c'est du logiciel libre. Et je trouve toujours intéressant quand cette approche est prise en compte par les décisionnaires, parce que j'ai l'impression que c'est pas toujours le cas, et j'ai trouvé que ça a montré une certaine maturité peut-être sur la question. Alors je suis sans doute très optimiste, mais je trouvais intéressant que cet aspect-là de la question ressorte. Est-ce que vous avez encore des choses à dire sur ce sujet, ou on passe à notre... Alors ça, c'était l'entrée, j'imagine, le plat principal, ou bon, il n'y a pas forcément de hiérarchie, mais en tout cas, au notre café suivant. On avance. Alors, j'ai pas la clochette, je ferai un petit ding, et je vous propose un sujet... Alors, Fred... Ah, pardon, je pensais que tu venais interagir. Excuse-moi. Il ne s'est rien passé. Je vous invite à nous retrouver sur PeerTube si vous voulez voir les coulisses de l'émission. Vous pouvez retrouver le lien d'ailleurs si vous voulez nous suivre sur PeerTube, sur le site de la radio. Donc, sujet suivant, alors qui est moins réjouissant, mais que je trouve néanmoins intéressant. Il y a eu une vague de compromissions qui a touché le cœur de nombreuses distributions GNU Linux via du code malveillant, et qui a débouché sur une porte dérobée dans les bibliothèques XZ. Alors, je vais être complet dans XZ version 5.6.0 et 5.6.1. XZ étant un format de compression de données à usage général présent dans presque toutes les distributions GNU Linux. Alors, je passerai soit la parole à Florence ou à Pierre. On va déjà peut-être poser quelques éléments de compréhension. Par exemple, c'est quoi une bibliothèque, c'est quoi, bon, une distribution, je pense que tout le monde voit un peu, mais peut-être remettre en deux trois mots, voilà, qu'on ait un peu ces éléments
partagés. Et c'est quoi une compromission?
Et c'est quoi une compromission?
Et c'est quoi une chaîne d'approvisionnement?
Voilà.
Et il y a plein de termes à expliquer pour que les gens...
Le sujet est complexe
peu,
pour ça.
Ouais, ouais.
Et on sait que les sujets de sécurité informatique, pour ça je pensais que c'était important d'en parler, sont sujet en fait récurrent dans l'actualité, récurrent aussi dans les craintes. On a tendance parfois à voir le logiciel libre, enfin, dans certains imaginaires, le logiciel libre peut être perçu comme quelque chose de plus fragile, alors qu'en réalité, on sait que techniquement, c'est même plutôt plus robuste du fait que ce soit dans cette transparence partagée. Mais ça, justement, on pourra y revenir dans nos conversations. Alors, je veux bien, voilà, quelques éléments de compréhension, de définition. Vas-y, alors. Florence.
Qu'est-ce que tu as demandé? Donc,
c'est quoi une bibliothèque? Déjà, est-ce que c'est une faille de sécurité sur une bibliothèque? XZ.
On dirait un utilitaire, donc c'est un bout de code ou c'est un outil qu'on va utiliser dans d'autres logiciels, et du coup, qu'on incorpore dans notre code pour pouvoir servir, enfin, fournir un autre service.
Est-ce que c'est comme une brique pour construire une maison ?
C'est bien ça. Ouais. C'est comme une brique pour construire une maison. C'est comme le ciment utilisé pour faire un mur ou une brique. Et du coup, c'est quelque chose qu'on utilise indirectement. Du coup, si y a une faille justement dans le ciment ou la brique pour construire le mur, ce qui est le cas ici dans le cadre de cette librairie, bah, tout le mur est compromis. Et du coup, dans ce cadre-là, bah, au niveau de la compression, c'est quelque chose qui est utilisé dans, bah, dans énormément de logiciels et dans, bah, comme tu l'as souligné, comme quasi, la quasi-totalité. Pour moi, c'était même la totalité des systèmes d'exploitation, parce que sinon, c'est-à-dire que tout prend la place maximale.
La compression, c'est vraiment une question de diminution d'espace. C'est, ouais, comme, c'est comme les, oui, les points zip dans le monde.
Absolument.
Ouais. Pas le nôtre, là,
oui,
c'est ça.
Oui. Non, mais c'est ça, effectivement. C'est les points zip, c'est rare. C'est, on ne voit pas, c'est transparent pour les utilisatrices et utilisateurs, mais c'est quelque chose qu'on a partout, partout, dans tous les échanges sur Internet ou même à l'intérieur, parce qu'en termes de stockage, ça peut jouer. Et est-ce qu'il y avait d'autres termes déjà à clarifier ? Tu veux bien me...
Alors, compression, distribution. Bon, les distributions, c'est... Bah, distribution, voilà. J'ai parlé de distribution GNU Linux.
C'est un système d'exploitation, pour le coup. Enfin, c'est une version... Enfin, c'est pas vraiment une version, mais... c'est comme une marque, on va dire. C'est une marque d'OS. Oh,
un ensemble d'outils, je sais pas. Ouais. Un ensemble d'outils avec le centre du système, qui est le noyau. Donc, tout clé en main pour avoir quelque chose d'utilisable.
Super. Et il y a une émission, j'ai pas le numéro en tête, mais si vous tapez sur le site libravou.org, vous tapez distribution, on avait fait une émission sur le sujet, si la question vous intéresse. Alors je pense qu'on a peut-être balisé les principaux éléments de compréhension technique en termes
j'ai
de
l'impression que...
Parce qu'on a parlé dans l'article effectivement sur lequel on est dessus là. La question de la compromission, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire une compromission dans un système informatique?
C'est un peu comme une faille. Là, ça s'assimile facilement à un cheval de Troie, enfin dans le sens mythologie, j'entends, même si ici c'est pas proprement dit un cheval de Troie en termes de compromission, mais c'est que quelque chose qu'on fait, la façon dont c'est censé interagir, eh ben quelqu'un d'autre ou un autre système est venu corrompre ça et faire en sorte que ça ne lâche pas comme c'est prévu pour le coup.
D'accord, donc c'est vraiment une action humaine d'un développeur, une développeuse quelque part ailleurs qui est venue sur cet outil-là.
Oui. C'est quoi, comme une sorte de pot de vin en version version logicielle. Tu détournes quelque chose de son usage premier.
Il y a vraiment quelque chose de malveillant quand on dit compromission pour le coup. C'est pas juste oups, j'ai un accident. Voilà.
Parce que moi j'avais pas parce que on sait des failles de sécurité. Il peut y en avoir dans tout logiciel, libre ou pas, et la plupart du temps, c'est fait parce qu'il y a eu une erreur ou parce qu'un lien entre deux bouts de code va pas fonctionner comme prévu et que des personnes pourront en profiter. Compromission, là, c'est le cas. C'est que là, il y a eu une action, enfin, ces failles-là ont été mises volontairement, ce qui est très rare dans le logiciel.
C'est une attaque, quoi.
C'est vraiment une attaque volontaire organisée.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça a été monté, parce que c'est une attaque extrêmement sophistiquée, en fait, sur la durée. En fait, déjà, XZ, c'est un format de compression particulier. Donc c'est des fichiers qui ont l'extension .xz. Donc on n'en voit pas tous les jours. C'est pas le format le plus répandu. Et les attaquants, en fait, parce que manifestement ils sont plusieurs, le truc est trop bien organisé pour que ça vienne d'une seule personne, se sont attaqués à ce logiciel-là qui était en gros mono-auteur, avec un auteur qui était un petit peu, à la fois il avait des soucis personnels il a dit qu'il avait des problèmes d'ordre psychologique. Enfin, il était un peu épuisé. Il n'avait pas beaucoup de temps à consacrer au logiciel parce que c'est quelque chose de bénévole de sa part. Et il y a des bons Samaritains qui sont arrivés en lui disant oh, t'inquiète pas, on va t'aider pendant 2 ans. Ils l'ont aidé à faire évoluer le logiciel, à faire de nouvelles versions, à ajouter des fonctionnalités. Et puis un jour, discrètement, ils ont rajouté la faille, en fait. Petit à petit, ils ont acquis sa confiance. Sur la durée, enfin il y a une personne notamment qui a acquis sa confiance sur la durée, donc c'était assez vicieux en fait. Il a fait des choses, des modifications complètement anodines, des évolutions de logiciel normal. Et puis un jour, une fois qu'il a eu les droits suffisants sur le logiciel pour pouvoir faire les modifications lui-même sans vérification par l'auteur initial, donc il a acquis des droits au fil du temps aussi. il a fini par mettre introduire la faille qui est assez, elle est assez subtile parce qu'elle est, elle est pas dans le code principal, donc celui que tout le monde regarde, tout le monde inspecte. Elle était dans les jeux de test en fait. Elle était planquée dans des jeux de test qui servent à vérifier que le logiciel une fois compilé, assemblé, fonctionne correctement. Donc c'était caché là et ça n'était activé que lors de la préparation du logiciel pour le mettre dans une distribution Linux ou autre. Donc c'était pas visible dans le code source habituel. Et ensuite, une fois que le truc a été validé, ils ont poussé côté distribution pour le faire avancer le plus vite possible dans les distributions. Et par ailleurs, ils se sont aussi débrouillés pour le faire intégrer dans un outil qui s'appelle SSH, qui est un outil de connexion à distance, qui n'a pas besoin de XZ en fait, ou très peu. Donc ils ont réussi à le faire entrer par la bande là-dedans pour introduire une vulnérabilité, la vulnérabilité cherchée, qui était d'avoir une porte dérobée dans les connexions à distance des administrateurs système. Donc vraiment, c'est un truc en plusieurs étapes. Et alors ça a été découvert quasiment par hasard par quelqu'un qui venait d'installer le logiciel.
Alors, j'ai le nom Andreas Freund, un développeur Postgres.
Voilà. Développeur Postgres, d'accord. Oui. Et je crois qu'il est bossé chez Microsoft, le monsieur.
Ça, non, je saurais pas dire.
J'ai cru voir ça quelque part. Donc un jour, il se servait de SSH. Il a vu que SSH mettait un petit peu de temps, plus de temps que normal, pour établir une connexion. Ça mettait, quelque chose comme une demi-seconde au lieu d'être instantané. Donc il a creusé, ce qu'on fait pas forcément. Quand un logiciel se traîne, on se dit « bon, il y a un problème réseau, je sais pas ». Donc il a creusé, il a découvert le poteau rose, et en fait, il y a eu une sorte d'audit en fait de toute la communauté libre pour comprendre et remonter tous les éléments dont je vous ai fait part, pour voir que l'attaque a été préparée de longue date. Donc c'est assez flippant parce que on l'a découvert un peu par accident. Le truc était très subtil, mais pas assez subtil parce que à la fin ça a quand même été découvert relativement vite avant que ça soit diffusé dans tous les systèmes. Mais ça fait un peu froid dans le dos de se dire qu'il pourrait y avoir d'autres attaques plus réussies. Il y en a peut-être eu d'ailleurs, on sait pas trop. Ce qui est rassurant, c'est de se dire qu'il y a quand même des gens vigilants et qu'on a pu remonter. Alors évidemment, on sait toujours pas d'où ça vient. Les personnes qui ont introduit la faille avaient des noms asiatiques, mais évidemment, si ça vient d'un service secret asiatique, ils vont peut-être pas mettre des noms asiatiques donc ça peut absolument rien dire. Et donc voilà, ça a mis en garde en fait toute la communauté logicielle sur logiciel libre notamment sur comment éviter ça à l'avenir. Ça ne met pas spécialement en cause plus particulièrement le logiciel libre parce que on n'aurait pas pu remonter les traces aussi facilement si ça avait été dans un logiciel propriétaire. On l'aurait peut-être même pas encore découvert parce qu'il y a eu des cas similaires dans les logiciels propriétaires, hein, des intrus en fait, des intrusions de code, enfin des insertions de code malveillantes par des employés ou par des gens pareils qui venaient aider. Donc voilà, ça pose tout un tas de questions sur le développement de logiciels, la vérification de qualité, la protection contre les attaques, tout un tas de choses. Le développeur de Curl, qui est une autre bibliothèque très connue et également un outil énormément utilisé dans le web, c'est un des outils de référence pour faire des automates, pour récupérer des pages web notamment. Donc je crois que c'est Daniel Sternberg qui s'appelle. C'est un outil très connu. Ils ont publié en réponse la liste des mesures qu'ils prenaient de leur côté, qu'ils avaient déjà prises d'ailleurs pour certaines, pour éviter qu'un cas similaire se produise dans Curl.
Mais là, ce que je comprends moi dans ce sujet-là pour XZ, c'est que c'est dans une version de développement. C'est-à-dire, en fait, c'est pendant des tests et des recettes, c'est ça qu'il a.
Oui,
c'était
alors
pas
c'est
pas sur une version stable de distribution.
Oui et non, parce que c'était dans l'étape de compilation. C'était planqué dans les jeux de test,
ouais.
Mais c'était quand même utilisé à la compilation. Donc en fait,
Mais pour une version en cours de mise à jour.
Ah non, ça a été poussé dans des versions de production.
Dans les versions stables,
Oui. Alors là, vous parlez de version de production, de distribution.
Oui. Là, on a dit que ça n'avait pas attaqué toutes les distributions. C'est ce que je comprends. Ça a attaqué notamment Debian, Fedora, Arch Linux.
Bon, oui,
ça veut dire que tous les dérivés de Debian sont également concernés?
Alors pas MX, forcément, Linux, ça dépend Linux, à quelle vitesse ça percole dans les différentes mises à jour.
Voilà, d'où ma question, je pensais que c'était... Alors, stable, pas stable, oui, même moi je sais répondre.
Il y a des versions voilà, qui sont plus faciles, qui sont faites pour le grand public, et des versions qui sont faites pour les personnes qui ont des compétences plus poussées, donc il y a des fonctionnalités qui ne sont pas encore validées,
oui, et qui ne sont pas uniquement accessibles. Pas embêtées si jamais il y a des choses qui ne marchent pas tout à fait comme elles l'attendent. Contrairement aux gens du coup, qui, comme moi, ont besoin de stabilité pour des choses et on prend que du long terme. Pour les, voilà. Mais et du coup, là-dessus, ce que vous dites tous les deux, c'est que ça a attaqué aussi les versions stables.
Ça, oui, certaines versions. Alors, je crois que c'était Red Hat qui a eu le... Parce que les attaquants ont quand même poussé côté d'au moins une distribution Linux et je crois que c'était Red Hat sous réserve. Ils sont quand même intervenus sur des listes pour dire ouais regardez il y a la nouvelle version de XZ qu'il faudrait mettre à jour parce qu'elle a, dans votre distribution parce qu'elle a des fonctionnalités super intéressantes.
Je vais laisser Florence réagir. Une question tu pourras peut-être y répondre mais pour les personnes qui nous écoutent et qui peut-être en écoutant Libre à vous en allant chez Tanak ou pour une autre raison ont chez eux installé une Debian, Arch Linux, Ubuntu. Est-ce qu'il faut qu'ils s'inquiètent ou est-ce que justement ça a été les correctifs ont été mis dans les mises à jour, est-ce qu'il faut mettre justement très vite à jour ce voilà. Est-ce qu'il y a...
Ça a été supprimé. Bah, du coup, sur ta question, exactement, ce qu'il y a, c'est que c'était... Alors, pour répondre à ta question, déjà, dès que ça a été su, il y a une nouvelle mise à jour qui a été mise en place pour qu'on retire la version défaillante qui pose problème. Après, par rapport à ta question, Isabelle, sur les versions majeures, c'est une version majeure de XZ qui a intégré le problème. Et ça a impacté beaucoup de distributions. Donc, j'avais noté Red Hat, Fedora, Debian, OpenSUSE. Maintenant, là où je suis pas sûre, c'est si ça a touché une version stable de ces distributions. Par contre, c'était des versions officielles. C'était peut-être des versions mineures, je veux dire. Donc, on peut, en fonction de à quel point on met souvent à jour ces distributions, être impacté ou pas.
Okay. Ouais, de ce que disait Pierre, je vois deux choses. Effectivement, la réaction de la communauté de logiciels libres, la capacité, la robustesse aussi du fonctionnement communautaire, parce qu'il y a énormément d'utilisateurs, d'utilisatrices de XZ. Ouais. Mais un autre point, et ça m'a fait penser à une autre faille qui a été extrêmement connue, qui a fait beaucoup de bruit, c'est Heartbleed, il y a maintenant quelques années. Et j'ai l'impression qu'il y a un point commun, c'est qu'on a un logiciel libre critique. Alors, je ne sais pas si c'était aussi une bibliothèque, bref. Un logiciel libre critique utilisé par énormément de monde, mais maintenu par une seule personne ou très peu. Et c'est là où ça vient faire de la faille. Donc, quand il s'agit de réagir, la communauté est capable de se relever les manches et d'agir collectivement. Mais on voit aussi toute l'importance. Et là, c'est bien, par exemple, je repense à l'actu d'avant, d'un land qui peut-être va mettre du temps de travail concret de personnes qui vont pouvoir contribuer à des logiciels critiques. Je sais que la Commission européenne, par certains financements, soutiennent peut-être sur cette réaction à Heartbleed, mettre des financements pour soutenir. Donc il y a quand même aussi un enjeu par les pouvoirs publics ou les entreprises à éviter ces situations où un logiciel, une brique logicielle soutenue par une seule personne, maintenue par une seule personne. Voilà, donc j'ai l'impression que c'est aussi un des nerfs de la guerre.
Heartbleed, c'était sur SSLEAY ou OpenSSL, je ne sais plus. Enfin, c'était lié à une bibliothèque de sécurité utilisée partout également et effectivement maintenue par très peu de gens.
J'ai l'impression que c'est un problème récurrent de mon regard néophyte, on va dire, sur la question. J'ai l'impression que c'est souvent une des questions, un des aspects.
Je pense qu'on est bien content quand il y a une personne qui passe sa vie, sacrifie sa vie justement à faire quelque chose qui sert à tout le monde. Et moi, je le voyais aussi effectivement comme un signal d'alarme, ce souci. Alors, j'ai vu quelque part, je ne sais pas si tu as vu la même chose, Pierre ou Isabelle, mais c'est que la personne, donc j'ai oublié le nom de l'auteur, enfin du commiteur principal, avait beaucoup de pression aussi pour lâcher les rênes et qu'il a fini par craquer sous la pression justement de la communauté qui lui disait évite le truck factor, partage un peu pour que tu vas pas
tout seul. Le truck factor, c'était le seul à conduire le camion, le bus, etc. Exactement. Que si t'as un accident, plus personne n'est là pour le conduire. Oui. Ah oui, donc il n'y a pas qu'un problème de personnes qui veulent contribuer, c'est aussi une question de pouvoir sur un logiciel.
Et... disons que quand on est chez nous, on a notre façon de faire et ça rajoute aussi du travail dans un premier temps de partager, de former, de faire confiance. Et c'est là où il y avait un peu d'amertume et d'ironie dans cette histoire, c'est que la personne ne faisait pas confiance. Et parce que c'était devenu une librairie qui était cruciale, on veut diminuer le truck factor, qui est le fait de lisser les risques sur plusieurs personnes, pour faire en sorte que si elle arrive quelque chose ou que la personne gagne au loto, par exemple, et s'en va, il ne travaille plus dessus, que les systèmes qu'il utilise puissent continuer à vivre. Et du coup, il a craqué, il a laissé ça. Après, ce qu'on entend un peu en sous-titre, c'est que les personnes qui font de l'open source le font sur leur temps libre, sont adulées et détestées à la fois, sont pas tellement protégées ou on prend pas de soin tellement d'elles et eux. Et ces personnes travaillent gratuitement. Donc autant la gloire, c'est cool, mais il n'y a pas que la gloire, il y a aussi les haters qui viennent avec dès que ça marche pas aussi bien partout ou qu'une fonctionnalité n'arrive pas assez vite. Et ça, c'est quelque chose que je pense qu'il faut avoir quand même assez conscience.
Alors, tiens, haters, c'est un anglicisme pour dire par les personnes qui s'énervent en ligne ou qui vont venir mettre
les harceleurs,
voilà.
Alors en fait il y a les deux facettes, parce qu'il y a quand même des grosses boîtes qui utilisent le libre et donc qui ont des développeurs, bah typiquement Red Hat par exemple, mais vrai. Google aussi, qui font de la contribution par des gens qui sont payés pour contribuer à du libre. Donc ça c'est plutôt ça peut être pas mal, même si ça peut être provoquer des conflits d'intérêts. Mais inversement aussi, il y a aussi des boîtes qui utilisent des logiciels contributifs comme ça, avec des très peu de développeurs, enfin des développeurs bénévoles. J'ai déjà vu des développeurs bénévoles qui sonner l'alarme entre guillemets en public, parce qu'ils montraient le genre de messages qui se prenaient de sociétés pour qui tel bout de logiciel libre était crucial pour leur business. Il y avait un bug dedans et ils leur disaient attention, nous on est en train de perdre beaucoup d'argent à cause des bugs, si vous pouviez vous dépêcher parce que ça va bien ma, mais il faudrait corriger ça vite fait. Et même les mecs, même pas aimables, hein, tu vois. Donc c'était donc il y a un peu, ouais, il y a un peu des tensions là-dessus sur entre les intérêts commerciaux et la capacité des développeurs qui sont pas forcément payés pour ça et qui ne reçoivent pas forcément directement, enfin qui sont gratifiés par leur contribution et leur utilité, mais sur qui des gens qui sont eux payés pour ça tombent pour les faire avancer plus vite. Donc, c'est un peu
Oui, et puis il y a ce que disait Étienne, ce que tu soulevais tout à l'heure, le lien avec notre sujet précédent, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de pousser comme fonctionnement des pouvoirs publics, des institutions, etc., comme étant garant de quelque chose là-dessus, ou est-ce qu'il faut qu'ils mettent de l'argent, du financement, pour que, oui, mais pour que quoi, comment. Enfin, je trouve que c'est pas évident, je trouve, comme sujet savoir.
C'est tout le sujet qu'il faut faire évoluer, de financement du libre, hein, oui, c'est clair.
Et au-delà du financement, c'est aussi une question de gouvernance, et ce que disait Florent, c'est que là, en fait, aussi la personne qui détenait finalement les droits d'auteur et qui donc la maîtrise, enfin le créateur du logiciel, avec cette maîtrise-là, qui ne voulait pas lâcher, donc il n'y avait pas un vrai fonctionnement communautaire à la base, et puis finalement il a cédé à des pressions. Du coup, en fait, ça il a mal cédé quelque part, puisque ça
arrive, hein,
sans lui jeter de pierre, parce que c'est bien sûr des questions
c'est
compliquées.
C'est très difficile.
Et je trouve une question peut-être intéressante. Alors, je l'ai pas en détail, mais je sais que notamment, et je pense que c'est pas les seuls, ce qui m'intéresse, c'est la question de réaction peut-être des communautés libristes. Alors, il y a celles qui ont participé à corriger le bug. Je sais que la fondation Eclipse, qui est une grande fondation, voilà, qui du logiciel libre a réagi, et peut-être voilà, quitte à avoir des failles, autant que ça produise du positif derrière, sur comment, pour répondre à toutes les questions en fait qu'on se pose, voilà, est-ce qu'il y avait des réactions, que ce soit celles d'Eclipse ou d'autres, que vous avez lues et qui vous ont paru poser des bases intéressantes d'évolution?
Moi, j'en ai pas vu beaucoup, hein, à part celle que j'ai citée de la communauté Curl, qui donnait qui expliquait ce qu'ils avaient eux fait de leur côté pour limiter ce genre de risque.
Du coup, par rapport à Eclipse, donc ils ont fait des specs communes de sécurité, donc que je trouve bien de cadrer avec des spécifications, des règles de bonnes pratiques de sécurité. Il y a plusieurs signataires déjà. Il y a Apache Software, Blender, PHP, Python, OpenSSL. Du coup, c'est déjà un bon signal dans la mesure où c'est des technologies qui sont assez répandues. Maintenant, dans les deux cas, que ce soit Curl ou Eclipse, pardon, je trouve ça intéressant, mais léger en vrai, dans le sens où on passe un peu à côté du problème, et en rajoutant plus de règles, en vrai, on a un système qui a besoin de soutien, et du coup, qui s'est laissé berner, mais c'est difficile à voir. Est-ce qu'au bout de 5 ans, on s'en serait rendu compte, si ils avaient mis plus de temps à insérer la faille? Ouais, je trouve qu'on passe à côté un peu du débat et de la problématique d'origine. Et du coup, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, moi, je pense qu'il faut des moyens institutionnels réellement pour l'open source, et que, je sais pas s'il y a une taxe, mais en tout cas, qu'il y ait une contribution obligatoire quand on profite de l'open source. C'est ça qui assurera la pérennité et fera en sorte que il y a le plus de sécurité possible. Par rapport à cet événement, quelque chose qui m'a marqué par rapport à un mythe qu'on peut avoir, c'est que le libre, on peut entendre que c'est quelque chose le plus sécuritaire possible, dans la mesure où tout le monde voit ce qui se passe. Et là où je trouve ça super intéressant, c'est qu'on est quand même passé. Enfin, maintenant, je me dis, y a des failles partout. C'est juste qu'on les connaît pas encore. Et en réalité, c'est comme une entreprise. Enfin, tant que c'est pas ni mieux ni moins ou moins risqué, c'est l'erreur est humaine, la confiance s'acquiert. Il n'y a pas de système parfait, quoi. Donc c'est un sujet qu'il faut continuer à creuser, je pense, à l'avenir, et toujours mettre en place des garde-fous d'une façon ou d'une autre, j'imagine.
Ce que tu dis, moi, m'évoque quand même cette question, parce que là, on parle effectivement d'une bibliothèque logicielle que 99% de la population ne connaît pas, et c'est normal. Moi, je ne connaissais pas avant d'en avoir entendu, d'avoir lu cette info. Mais en fait, dont on dépend quasiment toutes et tous, parce que tant de parts de nos vies dépendent des réseaux informatiques. Ça faisait pas visiblement partie de ces éléments quand même présents, donc, qui font tourner quasiment tous les réseaux informatiques, dont on dépend donc assez largement. Et donc on voit l'intérêt quand même, presque comme un service public quelque part, de s'assurer que ce réseau informatique dont dépend l'exercice de nos libertés, nos interactions avec des administrations, nos interactions aussi entre nous, soit aussi fiable et aussi sûr que possible, quoi. Donc on voit quand même qu'il y a peut-être une certaine légitimité à se dire que notre contribution par l'impôt ou par d'autres choses, par nos organisations collectives, servent à s'assurer que ce réseau partagé fonctionne à peu près bien, quoi. Il ne repose pas sur un bénévole tout seul dans son coin, qu'on a les correctifs d'un temps, et puis comment on gère tout ça, quoi. En fait, il faut du logiciel libre partout.
Oui, tout en faisant attention à ce que s'il y avait une taxe ou s'il y avait des fonctionnements ou des financements ou des choses qui soient décidées ailleurs, que ça ne tue pas des pratiques ou des principes ou des façons de faire du logiciel libre au sens générique, et que ce que tu disais tout à l'heure, Pierre, sur le OK, mais c'est une faille qui a été finalement vite vue par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer. Peut-être qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas vu ailleurs dans d'autres mondes propriétaires, il ne faut pas oublier ça quand même, et est relativement vite réparée. C'est-à-dire que c'est quand même le bon côté de l'information, de la nouvelle. Et il ne faudrait pas, c'est touchy, il ne faudrait pas que tu aies des fonctionnements qui seraient soit une taxe, soit une obligation de quelque chose, soit parce que si un État ou une institution donne des moyens, généralement, il faut derrière qu'il y ait une vérification de qu'est-ce qui est fait avec
des
ces
procédures,
moyens,
des
procédures, et que ça n'alourdisse pas ou que ça ne tue pas tout simplement la liberté dont on,
t'as tout à fait raison,
on souhaite.
A fortiori pour des gens qui sont bénévoles, ils n'ont pas forcément envie de se casser la tête avec des procédures compliquées.
C'est aussi un libre, c'est le fork. Oui. C'est-à-dire que si on n'est pas très content, le code reste accessible et on peut vraiment sortir aussi d'une manière de faire, et on peut toujours proposer autre chose. Et c'est pour ça que c'est une liberté absolument fondamentale, quoi. Comme dans nos démocraties, moi j'aime bien prendre ce parallèle avec la liberté et le droit à l'insurrection, quoi. C'est qu'à partir du moment où juste que c'est tyrannique, on repart et on refait comme il nous semble plus juste. D'autres mots où on avance?
Un dernier mot, il y a les failles volontaires. On a toujours le problème de la sécurité logicielle. On n'a pas trouvé de solution encore à ce jour. On n'est pas capable d'assurer qu'un logiciel n'a pas de faille et a fortiori n'a pas de bug.
J'allais dire heureusement.
Peut-être. Oui, c'est encore le côté magique.
Il reste quelque chose d'humain
dedans.
C'est ça,
tout à fait.
On n'est pas parfait. Youpi.
Oui. Donc en fait, il peut y avoir des failles introduites volontairement, mais il y a aussi des failles introduites involontairement. Et donc les trous de sécurité. Donc c'est pour ça qu'on a des mises à jour de système, etc. Et il faut savoir que il y a des attaquants qui sont très malins, qui n'essayent pas d'introduire des failles parce que ça leur permettrait peut-être de remonter jusqu'à eux, mais qui se contentent d'utiliser les failles existantes et ils se débrouillent pour les connaître avant nous et les garder secrètes. Donc il y a tout un marché gris de consultants en sécurité qui découvrent des failles et qui ne les publient pas, qui les vendent au plus offrant, souvent des États d'ailleurs, qui s'en servent pour attaquer des systèmes sur des failles que personne d'autre qu'eux ne connaît.
Tout peut être transformé en marchandise.
Voilà, c'est assez particulier comme activité.
Il me semble qu'ils peuvent aussi les vendre à l'entreprise qui a commis la faille, pour le coup.
Alors oui aussi, oui, ça doit se faire aussi, mais c'est assez complet. Après, il y a eu un exemple célèbre avec la NSA qui avait accumulé ce qu'ils appelaient le coffre au trésor de failles il y a peut-être 15 ans. Ils avaient toute une série de failles dans Windows notamment, sur lesquelles ils étaient obligés de dévoiler à Microsoft, aux éditeurs, mais en l'occurrence Microsoft notamment, au bout de 3 mois. La loi américaine les obligeait à les dévoiler au bout de 3 mois, mais ils les ont gardés pendant des années pour s'en servir en fait. Mmh. Et un jour, des pirates un jour ça a fuité de chez eux, ça a donné lieu à toute une série de virus il y a une quinzaine d'années. Attribués, qui ont été attribués aux Chinois, aux Russes, je sais pas qui d'autre. Donc voilà, il y a tout un monde obscur derrière tout ça en sécurité informatique qui est assez passionnant et très très compliqué.
Ouais, sujet complexe. Alors c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps sur ces deux premières actus, mais qui, à mon sens, étaient vraiment aussi deux gros morceaux et méritaient qu'on y passe du temps. Moi, je vous propose d'avancer. Juste peut-être, redire, si vous utilisez du logiciel libre, c'est une distribution Debian, etc. A priori, c'est corrigé. Et de manière générale, que vous utilisez libre ou pas, maintenez vos systèmes à jour. Je pense que c'est une bonne pratique d'hygiène. Je vous propose d'avancer à notre plat suivant. Alors un autre sujet un peu complexe. Pierre, tu voulais l'aborder la dernière fois, on n'en a pas parlé. Ça ne parle pas directement de logiciel libre, mais c'est les questions aussi de licence. Donc on revient finalement, on parle de liberté informatique, et là de dépendance à des licences. Et là avec une illustration très précise en fait. Donc VMware... alors je crois que c'est une boîte qui maintenait un logiciel dont dépendait, donc qu'utilisait énormément d'entreprises. Alors tu vas nous préciser de quel logiciel il s'agit. Donc a été racheté par Broadcom, qui est une multinationale américaine, et qui a littéralement, et parce qu'elle le pouvait, parce que là on parle d'une licence propriétaire, elle a acquis la maîtrise de cette licence, a décidé de son côté, parce qu'elle en était capable, d'augmenter, mais je crois, dans du x10, le prix des licences, tout en modifiant en plus, dans des conditions moins favorables, je crois, l'utilisation du logiciel. Et ça a fait énormément de bruit dans les très nombreuses entreprises qui utilisaient ce logiciel, mais je crois un logiciel très répandu et incontournable même.
Alors oui, ça s'appelle VMware, c'est ce qu'on appelle un logiciel de virtualisation, c'est-à-dire ça permet de faire tourner plusieurs systèmes, plusieurs machines sur une seule machine physique. Donc on a des machines virtuelles et c'est très utilisé, notamment dans le cloud. Les clouds Amazon sont basés là-dessus, les clouds de Microsoft, etc. également. C'est un logiciel qui est pas mal utilisé par des entreprises quand elles veulent mettre en commun leurs serveurs et optimiser l'usage de leurs serveurs et la gestion, l'administration de leurs serveurs. Et donc c'est un logiciel commercial. Je connais pas les tarifs exactement ni les conditions de licence, mais c'est un logiciel qu'il faut acheter. Il y a une version gratuite, je crois. Il y a eu une version gratuite à une époque. Et du jour au lendemain, Broadcom, donc qui a racheté la boîte, a décidé, en étant en position de force, hein, en position peut-être pas monopolistique, mais en position commercialement très favorable parce que son logiciel est très apprécié. Et après, c'est aussi toute l'histoire de l'écosystème. T'as des logiciels équivalents qui permettent de remplacer ça, mais il faut tout refaire chez toi. Enfin, faut tout réinstaller. En gros, c'est comme quand tu veux faire ta cuisine avec un autre fabricant. Il faut tout virer et tout refaire. Même si à la fin t'as quand même une cuisine et c'est servi au même. Donc en fait, t'es pieds et poings liés avec eux et ils ont essayé d'en profiter avec leurs clients en monétisant au mieux leur position de force, c'est-à-dire en augmentant brutalement les prix. Alors ils ont complètement revu leur offre commerciale pour upseller, comme on dit, hein, c'est-à-dire vendre aux utilisateurs plus que ce qu'ils avaient demandé initialement. Et donc les utilisateurs se plaignent forcément parce qu'ils voient leur facture flamber entre 10 et jusqu'à 40. J'ai eu des exemples assez hallucinants. Donc les gens se retrouvent en fait, ça change l'équation, parce que l'équation c'est souvent de dire bon, on va pas prendre du libre parce que il manque des morceaux. On va pas prendre tel fournisseur parce qu'il manque des morceaux. Là, j'ai toutes les en main chez tel autre. Ça me coûte moins cher à la fin parce que moi, mon activité, c'est pas d'aller faire des petits bouts de chewing-gum pour relier de l'infrastructure. Moi, mon métier, c'est aller, je sais pas quoi, vendre des taxis ou vendre ceci ou cela. Donc, j'ai pas envie de passer du temps. Je vais acheter quelque chose de clé en main, commercialement adapté à ce que je veux faire, parce que ça me revient moins cher au final. Mais évidemment, quand la facture est multipliée par 10 du jour au lendemain, ça rebat complètement les cartes et ça peut inciter à réétudier l'équation commerciale qu'on veut proposer. Il y a eu sur une durée plus longue, il y a le même genre de choses avec les bases de données Oracle. Oracle, c'est un grand de la base de données, donc c'est un élément qui était longtemps critique, enfin qui est critique dans pas mal de systèmes informatiques, et pour lesquels il n'y avait pas vraiment d'équivalent libre. Et au fil du temps, il y a des bases de données libres comme MySQL, Postgres qui se sont améliorées en fait, qui ont complété en fonctionnalité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce que 90% des usages d'Oracle peuvent être remplacés facilement par du libre. Mais il faut tout refaire. Et donc en fait, Oracle, à force de pousser le bouchon, a incité les clients au bout de 20 ans, quand les clients refont leur système à zéro, plutôt que de prendre l'offre commerciale qui coûte très cher, ils prennent du libre parce que ça convient parfaitement aux besoins en fait.
Pour préciser, c'est vrai que dans une situation vraie équivalente, si plein de boîtes dépendaient d'un logiciel libre et qu'il y avait eu un rachat et que alors on peut pas vendre, c'est plus la prestation de service, donc on peut dépendre de différentes manières, mais avec du logiciel libre, on n'est jamais à ce point structurellement, n'est jamais à ce point enfermé, quoi, et complètement dépendant. Parce que là, soit ils continuent, ils acceptent de payer ces tronçons quelque part, soit ils repartent à zéro, ils doivent complètement changer leur infrastructure, leur fonctionnement, quoi.
Ah ben là, ça change complètement les équations. Donc, après, je pense qu'il y aura un petit peu toutes les, suivant les cas particuliers, il y a des gens qui vont décider de payer, puis des gens qui vont décider de migrer sur autre chose. Sachant que la migration n'est jamais facile non plus, parce que même si tu décides de remplacer, c'est des mois de travail facilement.
C'est ça, c'est bien de le faire avant d'avoir des gros problèmes, comme nos amis du Land allemand qui ont décidé peut-être de sortir de Microsoft avant de se prendre des augmentations de prix de licence, on ne sait pas. Merci beaucoup pour cette présentation, et je trouve que c'est une manière intéressante de souligner cet enjeu de la dépendance. Ça faisait écho bien du coup avec la première actu. Est-ce que vous voulez réagir, Florence? Est-ce que du coup on a sauté en fait l'actu qu'on avait prévu avant? Désolé à mes camarades autour de la table, je suis pertinent, ça va pas, mais ça nous servira de dessert du coup, ce sera très bien. Mais est-ce que vous voulez réagir, Pierre? Je t'ai un peu interrompu, mais si tu as d'autres choses que tu voulais encore dire, Florence, Isabelle, si vous voulez réagir.
Moi j'ai un petit côté, quand on fait un choix de logiciel ou d'architecture, on aura tendance à se renseigner autour de soi et plutôt suivre un mouvement de foule, en tout cas de se dire, vu que mes pairs font ça, il y a un facteur rassurant. Et on l'a vu effectivement sur Oracle ou sur VMware, qu'on peut aussi tous être dans la mouise, en réalité, tous ensemble. Et quand il y a des arguments qui pèsent dans le sens, mais auxquels on fait pas attention au moment de faire le choix, de se dire à quel point on est libre, à quel point on pourra quitter cette solution si ça pose problème, le fait qu'on soit nombreux ou nombreuses permet de nous dire « Ah non, mais c'est le bon choix ». Et des fois, j'ai l'impression qu'on préfère se tromper tous ensemble que prendre le risque d'être à l'écart et de gérer au cas où il y a un problème. Mais par contre, je serai toute seule ou tout seul. Et je pense que ça, dans nos décisions de gouvernance, c'est quelque chose qui est très, très dur. Parce qu'en plus, on passe pour quelqu'un d'un peu, enfin, je sais pas, peut-être anxiogène en disant « Ah oui, mais on peut pas gérer tous les cas. Ah oui, s'il y a une bombe atomique, s'il y a la guerre, s'il y a un rachat. » Mais ce sont réellement des choses qui arrivent sur des postures monopolistiques, là, pour le coup. Donc ouais, moi, je trouve ça super intéressant que ce soit arrivé. Et l'autre point que ça soulève en moi, c'est le changement du modèle. Du coup, tu l'as dit, les prix ont flambé. Et c'est aussi un changement de consommation. Parce que jusqu'ici, c'était un paiement one shot. Et là, il bascule merci de me reprendre. en une fois. Et il bascule dans un modèle qui se fait de plus en plus sur l'usage, donc sur l'abonnement, en disant tous les mois, on va payer. Et c'est là où c'est l'enfer pour les personnes qui souscrivent à ça, parce que forcément c'est plus, ça veut dire qu'on perd un peu du contrôle. Et ça paraît fou et pas possible, mais en fait, effectivement, dès qu'on se fait racheter, enfin dès que l'outil, même sans rachat en fait, c'est que c'est pas nous qui décidons de la tarification, donc tout peut changer du jour au lendemain. Et je faisais le parallèle avec la brique de tout à l'heure, où je me disais, mais du coup c'est presque drôle, mais si je me disais qu'aujourd'hui j'achète une brique, je fais mon mur, le mur, il est à moi. Là, on arrive quand même dans un modèle où j'achète la brique et chaque année qui passe ou chaque mois qui passe, je paye un abonnement. Effectivement, ça paraît inconcevable. Et je trouve qu'il y a vraiment que dans le logiciel où on se permet quand même de faire ce genre de changement de modèle comme si c'était tout à fait normal, alors qu'à la base, c'est pas des services, c'est des produits pour le coup.
Et je trouve que ça ferait un lien très intéressant avec le dessert qu'on a prévu. Alors, je ne veux pas interrompre s'il y avait un dernier mot à dire, Pierre.
Effectivement, les éditeurs de logiciels, jusque-là, vendent le logiciel à l'unité. Donc, on est censé, entre guillemets, le posséder. Et effectivement, ça va tout à fait faire la transition avec la suite. Mais effectivement, ils ont envie d'un modèle où ils ont un revenu récurrent garanti sur la durée. Donc, tu n'es plus client, tu ne payes plus, tu n'es plus client, tu n'as plus de logiciel. Donc, c'est effectivement, ça met les clients en position de vulnérabilité et de nécessité de payer la maintenance et faire l'évolution du logiciel sur la durée.
Et dans un cas, là, ces propriétaires, ils rançonnent, en fait, ils font du bénéfice sur le fait qu'on soit dépendant du logiciel, là où sur du USAIB, ça va être plutôt, en fait, c'est par la notre qualité de service, en général, qu'on va plutôt s'assurer de cette... je sais pas, rien n'est magique non plus, mais pour mettre un avis tout à fait biaisé sur la question, et je vous propose donc de passer à notre dessert. Donc il nous reste un peu moins de 10 minutes, mais je trouvais que cette actu, je crois que c'est Pierre à nouveau qui nous l'avait partagé. Le jeu en ligne de course de voiture The Crew de Ubisoft n'est plus jouable depuis le 1er avril. Et alors si certains joueurs qui avaient et joueuses qui avaient pu acheter le jeu visiblement ont pu être remboursés, c'est pas du tout le cas de tous. Ce jeu a plus de 10 ans visiblement, enfin autour de 10 ans. Et donc voilà, c'est un jeu sur lequel on jouait en ligne, c'est-à-dire que sans doute, je connais pas le fonctionnement d'Ubisoft, mais j'imagine sans mal qu'on devait passer par une plateforme où on était inscrit, qui nous permettait de nous connecter aux jeux qui tournaient sur les serveurs d'Ubisoft. Et puis, on avait ces jeux et tout d'un coup, on ne peut plus y jouer. Alors j'imagine qu'il y a peut-être des gens qui jouaient depuis des années, qui adorent ces jeux, qui ne peuvent tout simplement plus y jouer. Et c'est là où ça fait le lien, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas vraiment leur jeu, ils louaient un service qui était la capacité, la possibilité de jouer à ce jeu. Alors, qui veut ouvrir le bal de ce débat ? Vas-y, Isabelle, t'as moins parlé sur le sujet précédent.
Ah, j'ai même pas du tout parlé parce que j'y connaissais rien du tout au sujet précédent. Mais par contre, moi, je croyais que le dessert, c'était pas celui-là. Il y avait parce que. Ou alors, j'ai confondu. C'était fromage et dessert, je sais pas.
Ah, moi, alors, ce sera soit le fromage, soit le dessert. On verra en fonction du temps.
Je croyais que c'était l'effet DMA, moi, le dessert. Non, c'est pas lui. On verra si on a
passé plus de temps.
Alors, Ubisoft.
Si on peut, on fera le DMA.
Je sais pas si grand chose à dire d'Ubisoft parce que je ne joue pas aux jeux vidéo. Je connais cette société-là et je comprends un peu l'idée, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des gens qui disent « Ah, mais quand même, j'avais payé pour avoir tel jeu, tel accès à un jeu, et là, soudainement, Ubisoft, de son propre chef, décide tout seul de changer sa façon de faire et donc de m'empêcher de jouer de cette façon puisque j'ai plus accès à tel et tel truc. » Moi, ce que je comprends quand même, c'est que de toute façon, dans ces marchés-là, il n'y a pas un contrat dans lequel tu signes, puis qu'il n'y a pas des choses avec une partie très très précise, quoi. Et que quand tu n'as pas un contrat, effectivement, il y en a un qui fait ce qu'il veut.
Il y a un contrat, c'est une contractualisation.
Oui, il y a un contrat, mais c'est un contrat qui est fictif.
C'est ce qu'on appelle les DRM, en fait. Enfin, c'est géré avec des mesures techniques permettant au détenteur des droits de faire ce qu'il veut et de t'enlever l'accès s'il le juge bon. Et en général, effectivement, tu as tout à fait raison, c'est prévu dans les contrats que personne ne lit. Mais,
je précise, les DRM, c'est des mesures de restriction d'usage.
C'est ça. C'est Digital Rights Management, donc gestion des droits, voilà. Et en fait, effectivement, c'est fait pour t'empêcher de copier le jeu comme tu l'entends, tout un tas de choses. D'ailleurs, quelqu'un avait dit, si je ne suis pas propriétaire du jeu quand je l'achète, c'est que je ne suis pas un voleur quand j'en fais une copie illégale. Enfin, c'est un peu tiré par les cheveux, mais oui. Ça s'entend. Et effectivement, les gens pensent... Enfin, ça pose aussi le problème des objets connectés dont le fabricant arrête le service qui est derrière, ça pose le problème d'obsolescence... j'aime pas le terme d'obsolescence programmée, mais ça pose le problème de la pérennité de ce qu'on achète et du fait que, notamment, en termes de médias électroniques aujourd'hui, on n'a pas forcément les droits qu'on croit avoir... en termes de pérennité sur ce qu'on achète. Et pour un jeu vidéo, effectivement, ça peut être embêtant. Et en particulier des jeux en ligne. Alors, à la rigueur, un jeu sur lequel on joue en local, comme on faisait à l'ancienne, mais c'est de moins en moins fréquent, on peut espérer conserver les droits vitam aeternam. Mais sur un jeu en ligne où l'éditeur décide du jour au lendemain d'arrêter ses serveurs et ce qui rend le jeu complètement inutilisable, ça pose quand même des soucis on est à la limite de la tromperie, en fait. Même si c'est certainement prévu dans le contrat, les gens peuvent légitimement s'estimer lésés par l'arrêt du service.
Ah, je sais pas, ça pose quand même d'abord la question de la dépendance, non?
Ah, alors ça, encore autre chose, je ne sais pas.
Non, mais dire la dépendance des gens à cette affaire-là.
La dépendance technologique, tu veux dire?
Oui, numérique, globalement, c'est-à-dire de quoi parle-t-on, en fait? Si des gens arrivent à se sentir lésés parce que quelqu'un a fait ce qu'il a. Il avait le droit de faire, donc c'est ça que je voulais dire, dans le fait qu'il n'y avait pas de contrat, dans le sens où on n'a pas personne, enfin Ubisoft, j'ai pas vu qu'Ubisoft avait dit je te promets que toute la vie de la tienne, pas la mienne, il y aura ce jeu là pour toi. Enfin, on sait très bien qu'une société, elle peut disparaître, elle peut changer de braquet.
Oui, mais quand t'achètes un livre, si l'éditeur fait faillite,
c'est quoi un objet numérique?
Mais dans le numérique, où est-ce que tu vois un endroit sur lequel on peut dire ça?
Les jeux entre guillemets à l'ancienne, les jeux
est-ce
édités
que je dis pas numérique.
Bah si, les jeux numériques pour ordinateur, les jeux vidéo d'il y a 30 ans,
où est-ce que c'est du rétro gaming
avec des jeux que tu peux encore faire tourner?
Parce que moi je trouve ça intéressant, c'est qu'effectivement, il y a une vraie raison, c'est que ça tournait sur les serveurs d'Ubisoft et on peut légitimement se dire qu'ils font ce qu'ils veulent avec leurs serveurs. Par contre, si on avait accès à la capacité d'installer le jeu chez soi et puis si on a les compétences ou si on veut trouver des gens qui ont les compétences d'installer son propre serveur et puis pouvoir se faire son jeu sur ses propres serveurs localement ou à d'autres, là, c'est possible parce qu'on n'a pas les droits. En fait, ça montre aussi que dans le logiciel des jeux, enfin dans les jeux aussi qui sont des logiciels, c'est en jeu de liberté d'usage. Puis les quatre libertés en général restent prépondérantes, quoi. Enfin,
ouais, non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Juste, je pousse le bouchon parce que je trouve ça intéressant. Quand tout à l'heure tu disais, ah ben la conclusion à ce qu'on vient de dire, c'est qu'il faut absolument faire les mises à jour régulièrement. Ok. Et s'il n'y a plus personne qui les fait, les mises à jour, ben, fait quoi?
C'est un enjeu collectif. Je veux dire, c'est,
Bah voilà, c'est quand même un enjeu collectif dans lequel on a chacun une place et que tout joueur ou joueuse qu'on soit ou pas, on est censé réfléchir à cette place qu'on a. Et donc.
Ouais, mais c'est vrai. Mais c'est un peu la question de la lecture des contrats auxquels on s'engage. Quand tu dois lire 30 pages de juridique avant d'acheter un jeu, c'est difficile.
On est seul face à nos contrats et cette question de se réapproprier collectivement nos usages, nos objets culturels, que ce soit de la musique ou là des jeux vidéo.
Et puis en discuter.
Et d'en discuter,
que ça soit, ouais. Parlé. Où est la transparence dans ces trucs-là? Il n'y en a pas.
Ah, bah là, oui, en théorie, il y en a, mais en pratique, oui, c'est le...
ouais, qu'on est d'accord. Moi, c'est le but aussi de parler de ça, c'est de se poser ces questions-là. Qu'est-ce qu'on achète vraiment? Là, on était plutôt dans un système, on a l'impression d'acheter quelque chose, mais en fait, on le loue, et on paye pour un accès tant que l'entreprise le veut bien, quoi. Et il y a des enjeux de droit. Alors moi, ça m'évoquait, c'est une histoire qui est très connue parmi les libristes. C'était, alors, je sais plus du tout en quelle année, mais Amazon avait, pour des questions de droit, ils avaient supprimé dans les liseuses électroniques d'Amazon, donc ils étaient connectés chez les gens pour supprimer un livre, et pas n'importe lequel, de 1984 de George Orwell, parce qu'il y avait un changement de droit, et je crois qu'ils ont reconnu que c'est maladroit la manière dont on l'a fait, mais quoi qu'il en soit, ils ont unilatéralement, ils sont rentrés dans les liseuses électroniques, et ils ont supprimé les fichiers, parce que ils ont considéré, voilà, il n'y avait plus le droit, parce qu'il n'y a plus les droits, vous pouvez plus le lire, vous avez beau avoir acheté le livre.
Plus récemment, tu as une boutique de musique en ligne, alors je crois que c'était quelque chose d'une grande major, alors je veux pas dire de bêtises, donc je ne donnerai pas de nom, mais ils ont fermé le service en ligne du jour au lendemain, donc les gens qui avaient acheté tout un tas de CD, enfin pas de CD, mais de morceaux musicaux, qui pensaient les avoir acquis éternellement, ont perdu leur catalogue, en fait.
C'est la question de la dépendance.
C'est ça. Ouais.
Moi, je trouve ça très drôle. Non, ça ne m'amuse pas.
Bon,
mais si, je trouve ça drôle, comment on est. On joue pas, mais...
Il va y avoir des lettres d'insultes à la radio aussi.
Je regarde le temps passé.
Dans le sens où ça pose des questions qui sont pour moi hyper naturelles et normales, qui devraient se poser. Et c'est comme si les gens ne s'étaient pas posés, quoi.
Je vois qu'il est 46-30, on ne va pas avoir le temps de faire le dernier sujet d'EMA. J'en suis désolé, ce qui était intéressant, savoir que en Europe, visiblement, les plus petits navigateurs, parce qu'il y a eu un changement de loi, prennent des parts de marché parce que notamment Google et Apple sont obligés de leur laisser un peu de place, et donc ça, c'est plutôt positif. Mais Florence, tu t'es pas exprimée sur ce sujet, je voulais
oui,
te laisser au moins un peu de place.
En vrai, moi, je rejoins Isabelle. Étant de l'autre côté, mais jamais de la vie, je vais fournir le support d'un logiciel ad vitam aeternam. vraiment jamais. Et même, je me posais la question inverse. Est-ce que c'est possible, avec l'évolution du matériel, de vraiment aujourd'hui garantir des usages avec le cycle de vie de nos ordinateurs ou mobiles? Et je ne crois pas. Et en même temps, je t'entends quand tu parles du livre, mais moi, en tant qu'usagère, c'est vrai, je me dis, tout ce qui est connecté à Internet, pour moi, ne m'appartient pas. En gros, c'est qu'on va venir, on supprime, on met à jour, ou alors faut refuser toutes les mises à jour. Mais je suis triste pour les joueuses et joueurs de The Crew qui sont sentis lésés.
Ah oui, mais vous voulez dire ça. Oui, oui, moi aussi, je suis très triste, je rigole. Mais non.
Il y avait un proverbe comme ça, les vieux ordinateurs ne meurent jamais, ils sont émulés.
Pardon.
Les vieux ordinateurs ne meurent jamais, ils sont émulés.
D'accord.
Oui, c'est vrai. Mais c'est des hacks. Je pense que The Crew, on trouvera une façon ou une autre peut-être de rejouer. Mais oui, c'est vrai. J'ai pas mieux. En tout cas, c'est un coup, l'informatique, c'est vrai. Et que du coup, on peut pas tout le temps se mettre à jour sur tout. Sinon, ça veut dire qu'on a des équipes sur tous les produits, ça fait qu'augmenter, en fait. Oui, donc, oui. À un moment, on est obligé de...
Après, t'as quand même des sociétés
Pierre, on va continuer cette conversation.
Là,
on a une autre chronique entendre pleinement quelques infos. En tout cas, merci à tous les trois, donc à Florence, Isabelle et Pierre de nous avoir rejoints pour ce Café Libre. Bien sûr, merci à vous de nous avoir écoutés. Et je vous propose une pause musicale avant de passer à notre dernier sujet. Alors, je vais dans mes fiches, parce que j'allais me tromper de pause. Non, voilà. Donc, nous allons écouter Balkan Beats par The Freak Fandango Orchestra. Et on se retrouve juste après pour une nouvelle pituite de Luc. À tout de suite sur la Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune, 93.1.
Ça swing aujourd'hui sur dans Libre à vous. Alors nous venons d'écouter Balkan Beats par The Freak from the Go Orchestra, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. CC BY SA, et mes camarades autour de la table sont d'accord avec moi, il y avait un petit côté Manu Chao dans la voix plus aiguë du chanteur ou de la chanteuse. Voilà, nous allons passer à notre dernier sujet.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Ah, merci à la régie de ne pas tomber dans les pièges que je lui tends involontairement. Nous allons passer donc à présent à notre dernier sujet. Nous allons donc poursuivre avec une nouvelle pituite de Luc, une chronique rafraîchissante au bougon exemplaire qui éveille l'esprit et développe la libido. Aujourd'hui, Luc nous parle d'insécurité informatique.
L'expression « sécurité informatique » me semble malvenue. Elle me donne l'impression que les choses sont sous contrôle alors que nous vivons en réalité à différents niveaux d'insécurité informatique. Une grosse source de vulnérabilité sont les utilisateurs eux-mêmes. Par exemple, LastPass et ses utilisateurs ont de gros ennuis en raison de campagnes de phishing très bien montées. Je me félicite aujourd'hui de n'avoir jamais eu assez confiance pour mettre mes mots de passe sur un service hébergé, parce que vu les manœuvres des escrocs, je pense que je me ferai avoir comme tout le monde. Par le passé, on se moquait des gens qui notaient leurs mots de passe sur un papier. Aujourd'hui, c'est finalement un moindre risque. Je songe à m'y mettre, j'écris tellement mal qu'un bout de papier et un stylo dans ma main valent bien un chiffrement AES 256 bits. La faille dans XZ Utils, qui a généré pas mal de remous chez une population pourtant pas naïve en matière de sécurité, est également d'origine humaine. Un contributeur chinois qui avait consciencieusement contribué au projet au point d'en récupérer la charge, en a profité pour y placer une backdoor. Ce n'est pas la première fois qu'un projet libre essentiel qui est maintenu avec des moyens dérisoires devient un problème de sécurité. La différence cette fois-ci, c'est que ce n'est pas une maladresse mais un acte délibéré. Si le monde du libre doit désormais se méfier des contributeurs dévoués qui font du bon boulot, les choses vont être compliquées. Autre faille humaine, le patron de la NSA israélienne s'est doxé tout seul en publiant un livre sur Amazon. Le machin a automatiquement et publiquement lié son livre à son compte Gmail. L'affaire révèle aussi que d'anciens officiers de ce groupe, qui les premiers ont vu la boulette, discutent dans un groupe WhatsApp. Si on m'avait dit avant ça que la crème de l'espionnage informatique a des comptes nominatifs Google et se murmure des trucs secrets sur les réseaux de Zuckerberg, je ne l'aurais pas cru. Avec la guerre qui menace, l'informatique est devenue une question stratégique et un terrain d'affrontement de faible intensité. La pression monte entre les États-Unis et la Chine. Les premiers ont décidé de forcer la revente de TikTok à des mains américaines. On sait que les réseaux sociaux sont globalement néfastes, nuisent à la santé mentale de leurs utilisateurs et à la démocratie, mais le vrai problème, c'est que ça puisse être les Chinois qui soient à la manœuvre. Parce que franchement, quelle différence pour nous que les oreilles qui nous écoutent soient américaines ou chinoises ? Sujet complexe auquel je peux apporter un fait incontestable. Ce ne serait pas le même type de cérumen. En effet, selon l'article de Wikipédia sur le sujet, les individus d'origine asiatique et amérindienne ont le plus souvent un type de cérumen sec, à l'inverse des individus d'origine africaine et européenne. On s'en fout ? D'accord, j'ai juste dit que j'apportais un fait incontestable. Quoique, pour être sûr, envoyez quand même un échantillon de votre cérumen à l'April, avec votre génotype inscrit sur le sachet. Si on en reçoit assez, on pourra valider scientifiquement ou non cette information. En représailles aux manœuvres américaines sur TikTok, le gouvernement chinois vient d'annoncer le boycott des processeurs Intel et AMD et annoncer également qu'il n'utilisera que son OS national qui s'appuie sur Linux. C'est un virage considérable dans un domaine qui jusqu'à maintenant était largement sous influence américaine. Verra-t-on à l'avenir deux blocs ennemis utilisant chacun leur propre informatique distincte ? D'un côté du Linux, de l'autre Windows ? Alors bon, peut-être devrais-je me payer une panoplie de Jean-Pierre Raffarin et rouler pour Xi Jinping. L'informatique côté américain, c'est des mecs comme Daniel Ek, patron de Spotify, qui se rend compte, après avoir viré 6% de ses effectifs pour souscrire à la mode de ces derniers mois, que sa boîte marche beaucoup moins bien maintenant, forcément. Alors que côté chinois, on a ce fameux pirate de XZ qui s'est quand même montré visionnaire, a travaillé avec abnégation et investi plusieurs années de sa vie pour obtenir le résultat visé. Et moi je pense à la frustration qui a dû être la sienne quand son investissement a été perdu. Et ça, tout le monde s'en fout, vous êtes vraiment des sans-cœur.
De retour en direct dans Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques, c'était la pituite de Luc, et nous allons terminer par quelques annonces. Alors, Alors d'avance, mes excuses, mais je vais devoir parler très vite car nous approchons rapidement de la fin de l'émission. Pourtant, je vous rajoute une annonce. Nous avons parlé de jeux vedeo et on m'a fait part d'une alternative qui s'appelle itch.io, une boutique de jeux indé qui permet souvent de télécharger des copies des jeux sans DRM. Ça dépend bien sûr des jeux et des choix de créateurs du jeu. Je tenais important de le souligner. Alors, Cause Commune vous propose un rendez-vous convivial chaque premier vendredi du mois à partir de 19h dans ses locaux à Paris au 22 rue Dimet dans le 18e arrondissement. Une réunion d'équipe ouverte au public avec apéro participatif à la clé. Occasion de découvrir le studio et de rencontrer les personnes qui animent les émissions. La prochaine soirée rencontre aura lieu le vendredi 3 mai, donc ce vendredi. À l'occasion de ces soirées mensuelles, l'émission Comme un vendredi est diffusée de 20h à 21h. Vendredi 3 mai, cette émission sera dédiée aux émissions Cause Commune qui parlent d'informatique, c'est-à-dire Libre à vous, Cyberculture et Parlez-moi d'IA. Mon collègue Frédéric Couchet animera l'émission et ma collègue Isabella Vanni y participera. Une nouvelle édition des Journées du Logiciel Libre, JDLL, aura lieu le week-end des 25 et 26 mai 2024 à Lyon. Et l'appli y tiendra un stand. Nous avons besoin de bras d'ailleurs pour assurer notre présence. Nous aurons également des conférences à April. Notre émission se termine, comme vous pouvez l'entendre, au générique. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. Laurent Lerotte-Costi, Florence Chabanois, Pierre Bessac et ainsi qu'Isabelle Carré, remanette de la régie aujourd'hui. Julie Chomard, merci à Élodie Daniel Giraudon qui s'occupera du podcast. Quentin Gibault ou Frédéric Couchet qui découperont. Et merci à mon collègue Frédéric d'avoir animé gérer le flux vidéo sur Peertube. Donc la prochaine émission aura lieu en direct mardi 7 mai à 15h30. Notre sujet principal portera sur Coop Paname, le libre dans la coopérative. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 7 mai. Et d'ici là, portez-vous bien.